Chapitre 2. Vous direz que je rêve de distinguer cela. Point du tout. Notre vie, pour ainsi dire, nous est moins chère que nous, que nos passions. À voir quelquefois ce qui se passe dans notre instinct là-dessus, on dirait que pour être, il n'est pas nécessaire de vivre, et que ce n'est que par accident que nous vivons, mais que c'est naturellement que nous sommes. On dirait que lorsqu'un homme se tue, par exemple, il ne quitte la vie que pour se sauver, que pour se débarrasser d'une chose incommode. Ce n'est pas de lui dont il ne veut pas, mais bien du fardeau qu'il porte. Je délonge mon récit de cette réflexion que pour justifier ce que je vous disais, qui est que je me pensais à un article qui m'intéressait plus que mon état, et cet article c'était Valville. Autrement dit, les affaires de mon cœur. Vous vous souvenez que ce neveu, en me surprenant avec M. de Climal, m'avait dit « Voilà qui est joli, mademoiselle !» Et ce neveu, vous savez que je l'aimais. Jugez combien ce petit discours devait m'être sensible. Premièrement, j'avais de la vertu. Valville ne m'en croyait plus, et Valville était mon amant. Un amant, madame, oh, qu'on le hait en pareil cas, et qu'il est douloureux de le haïr. Et puis sans doute qu'il ne m'aimerait plus. Oh, l'indigne! Oui, mais avait-il tant de tort? Ce Climal est un homme âgé, un homme riche. Il le voit à genoux devant moi. Je lui ai caché que je le connaissais, je suis pauvre. À quoi cela ressemble-t-il? Quelle opinion peut-il avoir de moi après cela? Qu'ai-je à lui reprocher? S'il m'aime, s'il est naturel qu'il me croie coupable, il a dû me dire ce qu'il m'a dit, et il est bien fâcheux pour lui d'avoir eu tant d'estime et de penchant pour une fille qu'il est obligé de mépriser. Oui, mais enfin, il me méprise donc actuellement. Il m'accuse de tout ce qu'il y a de plus affreux. Il n'a pas hésité un instant à me condamner, pas seulement attendu qu'il m'eût parlé. Je pourrais excuser cet homme-là. J'aurais encore le courage de le voir. Il faudrait que je fusse bien lâche, que j'eusse bien un peu de cœur. Qu'il eût des soupçons, qu'il fût en colère, qu'il fût outré, à la bonne heure. Mais du mépris, du dédain, des outrages. Mais sans aller voir que je le rappelle, et ne pas revenir, lui qui m'aimait et qui ne m'aime plus apparemment. Ah, j'ai bien autre chose à faire qu'à songer à un homme qui se tend si indignement et qui me connaît si mal. Qu'il devienne ce qu'il voudra. L'oncle est parti, laissons là le neveu. L'un est un misérable et l'autre croit que j'en suis une. Ne sont-ce pas là des gens bien regrettables. Mais à propos, j'ai un paquet à faire, dis-je encore à moi-même, en me levant d'un fauteuil où j'avais fait tout le soliloque que je viens de rapporter. À quoi est-ce que je m'amuse puisque je sors demain? Il faut renvoyer ses hardes aujourd'hui, aussi bien que l'argent que ces jours passés m'a donné Climal. Mais quel argent était resté sur la table où je l'avais jeté? Madame Dutour ne l'avait pas forcé, remis dans sa poche. Et Madame Dutour me l'avait par force remis dans ma poche. Bon, reprendre là. Lequel argent était resté? Lequel argent était resté sur la table où je l'avais jeté, et Madame Dutour me l'avait par force remis dans ma poche. Là-dessus, j'ouvris ma cassette pour y prendre d'abord le linge nouvellement acheté. Oui, monsieur de Valville, oui, disais-je en le tirant, vous apprendrez à me connaître, à penser de moi comme vous le devez. Et cette idée me hâtait, de sorte que, sans y songer, c'était plus à lui qu'à son oncle que je rendais le tout, d'autant plus que le renvoi du linge, de la robe et de l'argent, joint à un billet que j'écrirais, ne manquerait pas de désabuser Valville et de lui faire regretter ma perte. Il m'avait fallu avoir l'âme généreuse, Je m'applaudissais d'avance de la douleur qu'il aurait d'avoir outragé une fille aussi respectable que moi, car je me voyais confusément je ne sais combien de titres pour être respecté. Premièrement, j'avais mon infortune qui était unique, et avec cette infortune, j'avais de la vertu, et elles allaient si bien ensemble. Et puis j'étais jeune, et puis j'étais belle, et que voulez-vous de plus? Quand je me serais faite exprès pour être attendrissante, pour faire soupirer un amant généreux de m'avoir maltraitée, je n'aurais pu y mieux réussir, et pourvu que j'affligeasse Valville, j'étais contente, après quoi je ne voulais plus entendre parler de lui. Mon petit plan était de le voir de ma vie, ce que je trouvais aussi très beau à moi et très fier, car je l'aimais, et j'étais même bien aise de l'aimer, parce qu'il s'était aperçu de mon amour et que, me voyant malgré cela rompre avec lui, il en verrait mieux à quel cœur y avait eu affaire. Cependant, le paquet s'avançait, et ce qui va vous réjouir, c'est qu'au milieu de ces idées si hautes et si courageuses, je ne laissais pas, chemin faisant, que de considérer ce linge en le pliant et de dire en moi-même « Mais si bas qu'à peine m'entendais-je, il est pourtant bien choisi. » Ce qui signifiait « C'est dommage de le quitter. » Petit regret qui déshonorait un peu la fierté de mon dépit. Mais que voulez-vous? Je me serais passé paré de ce linge que je renvoyais, et les grandes actions sont difficiles, quelque plaisir qu'on y prenne. On se passerait bien de les faire. Il n'y aurait plus de douceur à les laisser là, soit dit en dînant à mon égard. Mais en général, il faut se redresser pour être grand. Il n'y a qu'à rester comme on est pour être petit. Bon, revenons. Il n'y avait plus que ma cornette à plier, et comme en entrant dans la chambre, je l'avais mise sur un siège près de la porte, je l'oubliais. Une fille de mon âge qui va perdre sa parure peut avoir des distractions. Je ne songeais donc plus qu'à ma robe, qu'il fallait empaqueter aussi. Je dis celle que m'avait donnée M. de Climal, et comme je l'avais sur moi, et qu'apparavant je reculais à l'ôter. « N'y a-t-il plus rien à mettre ?» disais-je. « Est-ce là tout ?»« Ah non, il y a encore l'argent. »« Ah, et cet argent, je le tirais sans aucune peine. »« Je n'étais point avare, je n'étais que vaine. » Et voilà pourquoi le courage ne me manquait pas, et ne me manquait que sur la robe. À la fin pourtant, il ne restait plus qu'elle. Alors comment ferais-je? Allons, avant que l'autre et celle-ci commençons par détacher l'autre, ajoutai-je, toujours pour gagner du temps sans doute. Et cette autre, c'était la vieille dont je parlais, que je voyais accrochée à la tapisserie. Je me levai donc pour aller prendre, et dans le trajet qui n'était que de deux pas, ce cœur si fier s'amollit, mes yeux se mouillèrent, je ne sais comment, et je fis un grand soupir, ou pour moi, ou pour Valville, ou pour la belle robe, je ne sais pour lequel des trois. Ce qui est certain, c'est que je décrochai l'ancienne, et qu'en soupirant encore, je me laissais tristement aller sur un siège pour y dire « Que je suis malheureuse ! Mais mon Dieu, pourquoi m'avez-vous ôté mon père et ma mère ? » Peut-être n'était-ce pas là ce que je voulais dire, et ne parlais-je de mes parents que pour rendre le sujet de mon affliction plus honnête. Car quelquefois, on est glorieux avec soi-même, on fait des lâchetés qu'on ne veut pas savoir, et qu'on se déguise sous d'autres noms. Ainsi peut-être ne pleurais-je qu'à cause de mes hardes. Quoi qu'il en soit, après ce court monologue, qui malgré que j'en eusse aurait fini par me déshabiller, j'allai par hasard jeter les yeux sur ma cornette qui était à côté de moi. « Bon, dis-je alors, oh, je croyais avoir tout mis dans le paquet, me voilà encore. Je ne songe pas seulement en tirer une de ma cassette, Pour me recoiffer, je suis nu-tête. Quelle peine que tout cela! Et puis, passant insensiblement d'une idée à une autre, mon religieux me revint dans l'esprit. Hélas, ce pauvre homme, me dis-je, qui sera bien étonné quand il saura tout ceci. Et tout de suite, je pensais que je devais l'aller voir, qu'il n'y avait point de temps à perdre, que c'était le plus pressé à cause de ma situation, que je renverrais bien le paquet le lendemain. Pardi, je suis bien sotte de m'inquiéter tant aujourd'hui de ces vilaines hardes. Je disais vilaines pour me faire accroître que je ne les aimais pas. Il vaut encore mieux les envoyer demain, matin. Valville sera chez lui alors. Il n'y a pas d'apparence qu'il y soit à présent. Laissons là le paquet, je l'achèverai tantôt, quand je serai revenu de chez ce religieux. Mon pied ne me fait presque plus de mal. J'irai bien tout doucement jusqu'à son couvent, que vous remarquerez qu'il m'avait enseigné la dernière fois qu'il était venu me voir. Oui, mais quelle cornette mettrai-je? Quelle cornette, et celle que j'avais ôtée et qui était à côté de moi. Oh, c'était bien la peine d'aller fouiller dans ma cassette pour en tirer une autre, puisque j'avais celle-ci toute prête. Et d'ailleurs, comme elle valait beaucoup plus que la mienne, il était même à propos que je m'en servisse afin de la montrer à ce religieux qui jugerait en la voyant que celui qui me l'avait donnée y avait entendu finesse et que ce ne pouvait pas être par charité qu'on en achetait de si belles, car j'avais dessein de conter toute mon aventure à ce bon moine qui m'avait paru un vrai homme de bien. Or, cette cornette serait une preuve sensible de ce que je lui dirais. Et la robe que j'avais sur moi. Et vraiment, il ne fallait pas l'ôter non plus. Il est nécessaire qu'il la voie. Elle sera une preuve encore plus forte. Je la gardai donc, et sans scrupule, j'y étais autorisé par la raison même. L'art imperceptible de mes petits raisonnements m'avait conduit jusque-là, et je repris courage jusqu'à nouvel ordre. Alors, recoiffons-nous, ce qui fut bientôt fait, et je descendis pour sortir. Madame Dutour était en bas avec sa voisine. Où allez-vous, Marianne? Me dit-elle. À l'église, lui répondis-je. Et je ne méritais presque pas une église et un couvent. Sont à peu près la même chose. Tant mieux, ma fille, reprit-elle, tant mieux. Recommandez-vous à la sainte volonté de Dieu. Nous parlions de vous, ma voisine et moi. Je disais que je ferais dire demain une messe à votre intention. Et pendant qu'elle me tenait ce discours, cette voisine qui m'avait déjà vu deux ou trois fois et qui jusqu'alors ne m'avait pas trop regardé, ouvrait alors les yeux sur moi, me considérait avec une curiosité populaire dont de temps en temps le résultat était de lever les épaules et de dire « La pauvre enfant !» Cela faisait compassion à la voir. Il n'y a personne qui ne croit que c'est une fille de famille. Façon de s'attendrir qui n'était de bon goût et qui n'intéressait. Aussi, n'en remerciais-je pas et je quittais bien vite mes deux commères. Depuis le départ de M. de Climal jusqu'à ce moment où je sortis, je n'avais, à vrai dire, pensé à rien de raisonnable. Je ne m'étais amusé qu'à mépriser Climal, qu'à me plaindre de Valville, qu'à l'aimer, qu'à méditer des projets de tendresse et de fierté contre lui, et qu'à regretter mes hardes, et de mon état, pas un mot. Il n'y en avait pas été question, il n'y avait pas pour garder. Mais le fracas des rues écarta toutes ces idées frivoles et me fit rentrer en moi-même. Plus je voyais de monde et de mouvement dans cette prodigieuse ville de Paris, plus j'y trouvais de silence et de solitude pour moi. Une forêt m'aurait paru moins déserte. Je m'y serais senti moins seul, moins égaré. De cette forêt, je n'aurais pu m'en tirer, mais comment sortir du désert où je me trouvais? Tout l'univers en était un pour moi, puisque je n'y tenais pas aucun rien à personne. La foule de ces hommes qui m'entouraient, qui se parlaient, le bruit qu'ils faisaient, celui des équipages, la vue même de tant de maisons habitées, tout cela ne servait qu'à me consterner davantage. Rien de tout ce que je vois ici ne me concerne, me disais-je. Et un moment après, que ces gens-là sont heureux, disais-je. Chacun d'eux a sa place et son asile. La nuit viendra et ils ne seront plus ici. Ils seront retirés chez eux. Et moi, je ne sais où aller. On ne m'attend nulle part. Personne ne s'apercevra que je lui manque. Je n'ai du moins plus de retraite que pour aujourd'hui, et je n'en aurai plus demain. C'était pourtant trop dire, puisqu'il me restait encore quelque argent, et qu'en attendant que le ciel me secourût, je pouvais me mettre dans une chambre, mais qui n'a de retraite que pour quelques jours, peut bien dire qu'il n'en a point. Je vous rapporte à peu près tout ce qui me passait dans l'esprit en marchant. Je ne pleurais pourtant point alors, et je m'en étais pas mieux. Je recueillais de quoi pleurer. Mon âme s'instruisait de tout ce qui pouvait l'affliger. Elle se mettait au fait de ses malheurs. Et ce n'est pas là l'heure des larmes. On n'en verse qu'après que la tristesse est passée, et presque jamais pendant qu'on la prend. Aussi pleurerai-je bientôt. Suivez-moi chez mon religieux. J'ai le cœur serré, je suis aussi paré que je le disais ce matin, mais je n'y songe pas, ou si j'y songe, je n'y prends plus de plaisir. Nombre de personnes me regardent en passant. Je le remarque sans m'en applaudir. J'entends quelquefois dire à d'autres: Ah, voilà une belle fille! Et ce discours m'oblige sans me réjouir. Je n'ai pas la force de me prêter à la douceur que j'y sens. Quelquefois aussi, je pense à Valville, mais c'est pour me dire qu'il serait ridicule d'y penser davantage, et en effet, ma situation décourage le penchant que j'ai pour lui. Ah, c'est bien à moi d'avoir de l'amour. Il aurait bonne grâce. Il serait bien placé dans une aussi malheureuse créature que moi, qui est reconnue sur la terre, où j'ai la honte de vivre pour n'en être l'objet ou de rebut ou de la compassion des autres. J'arrive enfin dans un abattement que je ne saurais exprimer. Je demande le religieux et on me mène dans une salle en dehors où l'on me dit qu'il est avec une autre personne. Et cette personne, madame, admirez ce coup de hasard, c'est monsieur de Climal, qui rougit et pâlit tour à tour en me voyant, et sur lequel je ne jetais non plus les yeux que si je ne l'avais jamais vu. Ah, c'est vous, mademoiselle, me dit le religieux. Approchez. Oh, je suis bien aise que vous arriviez dans ce moment. C'est de vous dont nous nous entretenions. Mettez-vous là. Non, mon père, reprit aussitôt monsieur de Climal en prenant congé du religieux. Souffrez que je vous quitte. Après ce qui m'est arrivé, il serait indécent que je restasse. Ce n'est pas assurément que je sois fâché contre mademoiselle. Le ciel m'en préserve. Je lui pardonne de tout mon cœur et bien loin de me ressentir de ce qu'elle a pensé de moi. Je vous jure, mon père, que je lui veux plus de bien que jamais et que je rends grâce à Dieu de la mortification que j'ai essuyée dans l'exercice de ma charité pour elle. Mais je crois que la prudence et la religion même ne me permettent plus de la voir. Et cela dit, mon homme salua le père et, qui pis est, me salua moi-même, les yeux modestement baissés, pendant que de mon côté je baissais la tête. Et il allait se retirer quand le religieux l'arrêtant par le bras. Mais non, mon cher monsieur, non, lui dit-il. Ne vous en allez pas, je vous conjure, écoutez-moi. Oui, vos dispositions sont très louables, très édifiantes. Vous lui pardonnez, vous lui souhaitez du bien, le voilà qui est à merveille. Mais remarquez que vous ne vous proposez plus de lui en faire, que vous l'abandonnez malgré le besoin qu'elle a de votre secours, malgré son offense qui rendrait ce secours si méritoire, malgré cette charité que vous croyez encore sentir pour elle et que vous dispensez pourtant d'exercer. Prenez-y garde, craignez qu'elle ne soit éteinte. Vous remerciez Dieu, dites-vous, de la petite mortification qu'il vous a envoyée. Eh bien, voulez-vous la mériter, cette mortification, qui est en effet une faveur? Voulez-vous en être vraiment digne? Redoublez vos soins pour cette pauvre enfant orpheline, qui reconnaîtra sa faute, qui d'ailleurs est jeune, sans expérience, et qui en aura peut-être dû qu'elle avait quelques agréments, et qui par vanité, par timidité, par vertu même, aura pu se tromper à votre égard. N'y a-t-il pas vrai, ma fille? Ne sentez-vous pas le tort que vous avez eu avec monsieur, à qui vous devez tant, et qui, bien loin de vous regarder autrement que selon Dieu, n'a voulu, par les saintes affections qu'il vous a témoignées, par ces douces et pieuses invitations que vous engagez vous-même à fuir ce qui pouvait vous égarer. Dieu soit béni, mille fois, de vous avoir aujourd'hui conduite ici. C'est à vous à qui la ramène, mon cher monsieur. Vous le voyez bien. Allons, ma fille, avouez votre faute. Repentez-vous dans l'abondance de votre cœur et promettez de la réparer à force de respect, de confiance et de reconnaissance. Avancez, ajouta-t-il, parce que je me tenais éloigné de monsieur de Climal. Et monsieur, m'écriai-je alors, en adressant la parole à ce faux dévot, est-ce que c'est moi qui ai tort? Mais comment pouvez-vous me l'entendre dire? Hélas, Dieu sait tout ce qu'il vous reste en justice. Je n'ai pu m'y tromper, vous le savez bien aussi. Et je fondis en larmes en finissant ce discours. Monsieur de Climal, tout intrépide tartuffe qu'il était, ne put le soutenir. Je vis l'embarras se peindre sur son visage. Il ne put pas même le dissimuler, et dans la crainte que le religieux ne le remarquât et n'en conçût quelques soupçons contre lui, il prit son parti en habile homme. Ce fut de paraître naïvement embarrassé et d'avouer qu'il l'était. Cela me déconcerte, dit-il avec un air de confusion pudique. Je ne sais que répondre. Quelle avanie! Ah, mon père, aidez-moi à supporter cette épreuve. Cela va se répandre. Cette pauvre enfant le dira partout. Elle ne m'épargnera pas. Hélas, ma fille, vous serez pourtant bien injuste, mais Dieu le veut. Adieu, mon père. Parlez-lui. Tâchez de lui dire cette idée-là. De la lui ôter, s'il est possible. Et il est vrai que je lui ai manqué de la tendresse. Elle ne l'a pas comprise. C'était son âme que j'aimais, que j'aime encore et qui mérite d'être aimée. Oui, mon père. Mademoiselle a de la vertu, je lui ai découvert mille qualités et je vous la recommande. Puisqu'il n'y a pas moyen de me mêler de ce qui la regarde. Après ces mots, il se retira et ne salua cette fois-ci que le religieux qui, en lui rendant son salut, avait l'air incertain de ce qu'il devait faire, qui le conduisit des yeux jusqu'à sa sortie de la salle et qui, se retournant ensuite de mon côté, me dit presque la larme à l'œil: Ma fille, vous me fâchez. Je ne suis point content de vous. Vous n'avez ni docilité ni reconnaissance. Vous n'en croyez que votre petite tête. Et voilà ce qui en arrive. Ah, l'honnête homme, Quelle perte vous faites? Que me demandez-vous à présent? Il est inutile de vous adresser à moi davantage. Très inutile. Mais quel service voulez-vous que je vous rende? J'ai fait ce que j'ai pu. Si vous n'en avez pas profité, ce n'est pas ma faute, ni celle de cet homme de bien que je vous avais trouvé et qui vous a traité comme si vous aviez été sa propre fille, car il m'a tout dit. Habits, linge, argent, il vous a fourni de tout, vous payant une pension. Alors vous la payez encore et avez même dessein de vous établir à ce qu'il m'a assuré. Et parce qu'il m'approuve pas que vous voyez son neveu, qui est un jeune homme étourdi et débauché, parce qu'il veut vous mettre à l'abri d'une connaissance qui vous est très dangereuse et que vous avez encore d'entretenir, vous vous imaginez par dépit qu'un homme si pieux et si vertueux vous aime et qu'il est jaloux. Mais cela n'est-il pas bien étrange, bien épouvantable? Lui jaloux, oh lui vous aimez. Dieu vous punira de cette pensée-là, ma fille. Vous ne l'avez prise que dans la malice de votre cœur, et Dieu vous en punira, vous dis-je. Je pleurais pendant qu'il parlait. Écoutez-moi, mon père, lui répondis-je en sanglotant. De grâce, écoutez-moi. Eh bien, que me direz-vous? Répondit-il. Qu'aviez-vous à faire de ce jeune homme? Pourquoi vous obstinez à le voir? Quelle conduite! Pas encore pour cette fois-là, pourtant, mais parler la mauvaise humeur et la rancune jusqu'à être ingrate et méchante envers un homme si respectable, à qui vous devez tant, mais que devriez-vous avec de pareils défauts? Quel malheur qu'un esprit comme le vôtre, en vérité! Votre procédé me scandalise! Voyez, vous voilà d'une propreté admirable. Qu'est-ce qui dirait que vous n'avez point de parents? Et que vous en auriez, qu'il serait riche, seriez-vous mieux accommodé que vous êtes? Peut-être pas si bien, et tout cela vient de lui, apparemment. Seigneur, je vous plains, il ne vous a rien épargné. Et mon père, vous avez raison, m'écriai-je encore une fois, mais ne me condamnez pas sans m'entendre. Je ne connais point son neveu. Je n'ai vu qu'une fois par hasard. Je ne me soucie point de le revoir. Je n'y songe pas. Quelle liaison aurais-je avec lui? Je ne suis point folle, et monsieur le climat vous abuse. Ce n'est point à cause de cela que je ronde avec lui. Ne vous prévenez point. Vous parlez de mes hardes. Elles ne sont que trop belles, j'en ai été étonné. Et elles vous surprennent vous-même, tenez, mon père. Approchez, considérez la finesse de ce linge. Je ne voulais pas, si fin au moins. J'avais de la peine à le prendre, surtout à cause des manières qu'il avait eues avec moi auparavant. Mais j'ai eu beau lui dire, je n'en veux point, il s'est moqué de moi, et m'a toujours répondu. Allez vous regarder en miroir, et vous voyez après si ce linge est trop beau pour vous. Oh, ma place, mais qu'auriez-vous pensé de ce discours-là, mon père? Dites la vérité. Si monsieur le climat est si dévot, si vertueux, qu'a-t-il besoin de prendre garde à mon visage? Que je l'ai beau ou laid, de quoi s'embarrasse-t-il? D'où vient aussi qu'en badinant, il m'a appelé friponne dans son carrosse, en m'ajoutant à l'oreille d'avoir le cœur plus facile et qu'il me laissait le sien pour m'y encourager. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quand on n'est que pieux, parle-t-on du cœur d'une fille et lui laisse-t-on le sien? Lui donne-t-on des baisers comme il a encore tâché de m'en donner un dans ce carrosse? Un baiser, ma fille, reprit le religieux. Un baiser, mais vous n'y songez pas. Comment donc? Savez-vous bien qu'il ne faut jamais dire cela? Parce que cela n'est point. Qu'est-ce qui vous croira? Allez, ma fille, vous vous trompez. Il n'en est rien. Il n'est pas possible. Un baiser, quelle vision! Ce pauvre homme, c'est qu'on est cahoté dans un carrosse et que quelque mouvement lui aura fait pencher la tête sur la vôtre. Voilà tout ce que je peux être. ce que, dans votre chagrin contre lui, vous aurez pris pour un baiser, quant aux haies, les gens, on voit tout de travers à leur égard. Et mon père, en vertu de quoi l'aurais-je haï alors? Répondis-je. Je n'ai près encore vu son neveu, qui est, dit-il, la cause que je suis fâché contre lui. Je ne l'avais point vu, et puis, si je m'étais trompé sur ce baiser que vous ne croyez point, monsieur de Climat, dans la suite, ne l'aurait pas confirmé dans ma pensée. Il n'aurait pas recommencé chez madame Dutour. Ni tant manié, tant loué mes cheveux dans ma chambre, où il était toujours à me tenir la main, qu'il approchait à chaque instant de sa bouche, en me faisant des compliments dont j'étais toute honteuse. Mais que voulez-vous là me conter, mademoiselle? Oh, doucement, doucement, me dit-il d'un air plus surpris qu'incrédule. Des cheveux qu'il touchait, qu'il louait. Monsieur de Climat, lui, oh, je n'y comprends rien, mais à quoi rêvait-il donc? Il est vrai qu'il aurait pu se passer de ces façons-là. Ce sont de ces distractions qui ne sont pas convenables, je l'avoue. On ne touche pas aux cheveux d'une fille. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais n'importe, c'est un geste qu'il ne faut pas, qui ne vaut rien. Et ma main, qu'il portait à sa bouche, répondis-je, mon père, est-ce encore une distraction? Oh, votre main, reprit-il, votre main. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a 1000 gens qui vous prennent par la main quand ils vous parlent. Et c'est peut-être une habitude qu'il a aussi. Je suis sûr qu'à moi-même, il m'est arrivé 1000 fois d'en faire autant. Mais à la bonne heure, mon père, repris-je, mais quand vous prenez la main d'une fille, vous ne la baisez pas je ne sais combien de fois. Vous ne lui dites pas qu'elle l'a belle. Vous ne la mettez pas à genoux devant elle en lui parlant d'amour. Oh mon Dieu! S'écria-t-il, oh mon Dieu! Petite langue de serpent que vous êtes, taisez-vous! Ce que vous dites est horrible! C'est le démon qui vous inspire! Oui, le démon, retirez-vous! Allez-vous-en, je ne vous écoute plus! Oh, je ne crois plus rien, ni les cheveux, ni la main, ni les discours! Fausseté que tout cela! Allez, laissez-moi! Allez, la dangereuse petite créature! Elle me fait frayeur, vous voyez ce que c'est. Dire que monsieur le Climat, qui mène une vie toute pénitente, qui est un homme tout en Dieu, s'est mis à genoux devant elle pour lui tenir des propos d'amour. Oh, Seigneur, où en sommes-nous? Ce qu'il disait, joignant les mains, en homme épouvanté de mon discours, et qu'il éloignait tant qu'il pouvait une pareille idée, dans la crainte d'être tenté d'examiner la chose. En vérité, mon père, lui répondis-je tout en larmes, et excédé de sa prévention, vous me traitez bien mal. Il est bien affligeant pour moi de ne trouver que des injures où je venais chercher de la consolation et du secours. Vous avez connu la personne qui m'a mené à Paris et qui m'a élevé. Vous m'avez dit vous-même que vous l'estimiez beaucoup, que sa vertu vous avait édifié. C'est à vous qu'elle s'est confessée à sa mort. Elle ne vous aura pas parlé contre sa conscience. Et vous savez ce qu'elle vous a dit de moi. Vous pouvez vous en ressouvenir. Il n'y a pas si longtemps que Dieu me l'a ôtée. Et je ne crois pas, depuis qu'elle est morte, que j'ai rien fait qui puisse vous avoir donné une aussi mauvaise opinion de moi que vous l'avez. Au contraire, mon innocence et mon peu d'expérience vous ont fait compassion, aussi bien que l'épouvante où vous m'avez vu. Et cependant, vous voulez que tout d'un coup, je sois devenue une misérable, une scélérate, et la plus indigne, la plus épouvantable fille du monde. Vous voulez que dans la douleur et dans les extrémités où je suis, un homme avec qui je n'ai été qu'une heure par accident, et que je ne verrai jamais, m'ait rendue si amoureuse de lui et si passionnée, que j'en ai perdu tout bon sens et toute conscience, et que j'ai le courage et même l'esprit d'inventer des choses qui font frémir et de forger des impostures affreuses pour lui contre un autre homme qui m'aiderait à vivre, qui pourrait me faire tant de bien et que je serais si intéressé à conserver si ce n'était pas un libertin qui fait semblant d'être dévot et qui me donne rien que dans l'intention de me rendre en secret une malhonnête fille. Oh, juste ciel, comme elle s'emporte, mais que dit-elle là? Qui a jamais rien dit pareil? Cria-t-il en baissant la tête, mais sans m'interrompre. Et je continuai. Oui, mon père, il ne tâche qu'à cela. Voilà pourquoi il m'habille si bien. Qu'il vous conte ce qui lui plaira. Notre querelle ne roule que là-dessus. Si j'avais consenti à sortir de l'endroit où je suis et à me laisser mener dans une maison qu'il devait meubler magnifiquement, où il prétendait me mettre en pension chez un homme à lui, qui est, dit-il, un solliciteur de procès et à qui il aurait fait à croire que j'étais sa parente arrivée de la campagne. Voyez ce que c'est, la belle dévotion. Mais comment, reprit alors le religieux en m'arrêtant, un solliciteur de procès, dites-vous. Est-il marié? Oui, mon père, il l'est, répondis-je. Un solliciteur de procès qui n'est pas riche, chez qui j'aurais appris à danser, à chanter, à jouer sur le clavecin, chez qui j'aurais été comme la maîtresse, par le respect qu'on m'aurait fait rendre, et dont la femme me serait venue prendre demain où je demeure, et si j'avais voulu la suivre, et que je n'eusse pas refusé de recevoir, pas plus tard que demain aussi, je ne sais combien de rentes, ou 500 ou 600 francs, je pense, par un contrat, seulement pour commencer, si je ne lui avais pas témoigné que toutes ces propositions étaient horribles, il ne m'aurait pas reproché, comme il l'a fait, et les louis d'or qu'il m'a donnés, que je lui rendrais, et c'est hard, que je suis honteuse d'avoir sur moi, et dont je ne veux pas profiter. Dieu m'en préserve, oh, il ne vous dira pas non plus que je l'ai menacé de venir vous apprendre son amour malhonnête, et ses desseins, à quoi il a eu froid de me répondre que quand même vous le sauriez, vous regarderiez cela comme rien, comme une bagatelle qui arrivait à tout le monde, qui vous arriverait peut-être à vous-même au premier jour, et que vous n'oseriez assurer que non, parce qu'il n'y avait pas d'homme de bien qui ne fût sujet à être amoureux, ni qui puisse en empêcher. Voyez si j'ai inventé ce que je vous dis là, mon père. « Bobo sauveur !» dit-il alors tout ému. « Ah, Seigneur ! Voilà un furieux récit ! Que faut-il que j'en pense ? Et qu'est-ce que nous, bonté divine ? Vous me tentez, ma fille ! Ce solliciteur de procès m'embarrasse. Il m'étonne, je saurais le nier car je le connais. Je l'ai vu avec lui, dit-il comme à part. Mais cette jeune femme n'aura pas été devinée que M. de Climal se servait de lui et qu'il est marié. C'est un homme de mauvaise mine, n'est-ce pas? Ajouta-t-il. Eh, mon père, je n'en sais rien, lui dis-je. M. de Climal ne fait que de m'en parler, et je ne l'ai vu ni lui ni sa femme. Oh, tant mieux, reprit-il, tant mieux. Oui, j'entends bien. Vous deviez seulement aller chez eux. Marie est un homme qui ne m'a jamais plu, mais ma fille, voilà qui est étrange, mais si vous dites vrai, à qui se fiera-t-on? Mais si je dis vrai, mon père, pourquoi mentirais-je? Serait-ce à cause de ce neveu? Et qu'on me mette dans un couvent afin que je ne le voie ni ne le rencontre jamais? Fort bien, dit-il alors, fort bien, cela est bon, on ne saurait mieux parler. Et puis mon père, ajoutai-je, demandez à la marchande chez qui M. de Climal m'a mise ce qu'elle pense de lui, et si elle ne le regarde pas comme un fourbe et comme un hypocrite. Demandez à son neveu s'il ne l'a pas surpris à genoux devant moi, tenant ma main qu'il baisait et que je ne pouvais pas retirer d'entre les siennes. Ce qui a si fort scandalisé ce jeune homme, qu'il me regarde à cette heure comme une fille perdue. Et enfin, mon père, considérez la confusion où M. de Climal a été quand je suis entré ici. Est-ce que vous n'avez pas pris garde à sa mine? Oui, me fit-il. Oui, il a rougi. Vous avez raison. Oh, je n'y comprends rien. Serait-il possible? J'en reviens toujours à ce solliciteur de procès. C'est un terrible article. Et son embarras, je ne l'aime point non plus. Qu'est-ce que c'est aussi que ce contrat? Est-ce bien pressé? Qu'est-ce que c'est que ces meubles et que ces maîtres pour des fariboles? Avec qui veut-il que vous dansiez? Plaisant de charité qui apporte aux gens à aller au bal. Un homme comme Monsieur le Climat, que Dieu vous soit en aide. Mais on ne sait qu'en dire, hélas. La pauvre humanité, à quoi est-elle sujette? Quelle misère que l'homme, quelle misère! Ne changez plus à tout cela, ma fille. Je crois que vous ne me trompez pas. Non, vous n'êtes pas capable de tant de fausseté. Mais n'en parlons plus. Soyez discrète, la charité vous l'ordonne, entendez-vous? Ne révélez jamais cette étrange aventure à personne. Gardons-nous de réjouir le monde par ce scandale. Il en triompherait et on prendrait droit de se moquer des vrais serviteurs de Dieu. Tâchez même de croire que vous avez mal vu, mal entendu. Ce sera une disposition d'esprit, une innocence de pensée qui sera agréable à Dieu, qui vous attirera à sa bénédiction. Allez, ma chère enfant, retournez-vous-en et ne vous affligez pas. Ce qu'il me disait à cause des pleurs que je répandais de meilleur courage que je n'avais fait encore, parce qu'il me plaignait. Continuez d'être sage et la Providence aura soin de vous. Oh, j'ai affaire, il faut que je vous quitte. Mais dites-moi l'adresse de cette marchande où vous logez. Hélas, mon père, lui répondis-je, après la lui avoir dite, je n'ai plus que le reste de cette journée-ci à y demeurer. La pension qu'on lui payait pour moi finit demain. Ainsi, je suis obligé de sortir de chez elle. Elle s'y attend, je ne serai plus après où me réfugier si vous m'abandonnez, mon père. Je n'ai que vous êtes ma seule ressource. Moi, cher enfant, hélas, Seigneur, quelle pitié! Un pauvre religieux comme moi, je ne puis rien, mais Dieu peut tout. Nous verrons, ma fille, nous verrons, j'y penserai. Dieu sait ma bonne volonté, il m'inspirera peut-être, tout dépend de lui. Je le prierai de mon côté, priez-le du vôtre, mademoiselle. Dites-lui, mon Dieu, je n'espère qu'en vous. N'y manquez pas, et moi je serai demain sans faute à 9 heures du matin chez vous. Ne sortez pas avant ce temps-là. Ah, ça, il est tard, j'ai affaire. Adieu, soyez tranquille. Il y a loin d'ici chez vous, que le ciel vous conduise. À demain. Je le saluai sans pouvoir prononcer un mot. Et je partis, pour le moins aussi triste que je l'avais été en arrivant chez lui. Les saintes et pieuses consolations qu'il venait de me donner me rendaient mon état encore plus effrayant qu'il ne l'avait paru. C'est que je n'étais pas assez dévote, et qu'une âme de 18 ans croit tout perdu, tout désespéré, quand on lui dit en pareil cas qu'il n'y a plus que Dieu qui lui reste. C'est une idée grave et sérieuse qui effarouche sa petite confiance. À cet âge, on ne se fie guère qu'à ce qu'on voit. On ne connaît guère que les choses de la terre. J'étais donc profondément consterné en me retournant. Jamais mon accablement n'avait été si grand. Quelques embarras dans la rue m'arrêtèrent à la porte d'un couvent de filles. J'en vis celle de l'église ouverte et, moitié par un sentiment de religion qui me vint en ce moment, moitié dans la pensée d'aller soupirer à mon aise et de cacher mes larmes qui fixaient sur moi l'attention des passants, j'entrai dans cette église où il n'y avait personne et où je me mis à genoux dans un confessionnal. Là, je m'abandonnai à mon affliction et je ne gênais ni mes gémissements ni mes sanglots. Je dis mes gémissements parce que je me plaignais, parce que je prononçais des mots et que je disais « Pourquoi suis-je venu au monde, malheureuse que je suis? Que fais-je sur la terre? Mon Dieu, vous m'y avez mise, secourez-moi !» et autre chose semblable. J'étais dans le plus fort de mes soupirs et mes exclamations, du moins je le crois, quand une dame, que je ne vis point arriver, et que je n'aperçus que lorsqu'elle se retira, entra dans l'église. Je sus après qu'elle arrivait de la campagne, qu'elle avait fait arrêter son carrosse à la porte du couvent, où elle était fort connue, et où quelques personnes de ses amies l'avaient prise, priée de rendre en passant une lettre à la prieure, de venir à son parloir. Elle était entrée dans l'église dont elle avait, comme moi, trouvé la porte ouverte. À peine y fut-elle que mes tons gémissants la frappèrent. Elle y entendit tout ce que je disais et m'y vit dans la posture de la personne du monde la plus désolée. J'étais alors assise, la tête penchée, laissant aller mes bras qui retombaient sur moi, et si absorbée dans mes pensées que j'en oubliais en quel lieu je me trouvais. Vous savez que j'étais bien mise, et quoiqu'elle ne me vît pas au visage, il y a je ne sais quoi d'agile et de léger qui est répandu dans une jeune et jolie figure et qui lui fit aisément deviner mon âge. Mon affliction, qui lui parut extrême, la toucha. Ma jeunesse, ma bonne façon, peut-être aussi ma parure, l'attendrirent pour moi. Quand je parle de parure, c'est que cela n'y nuit pas. Il est bon, en pareille occasion, de plaire un peu aux yeux. Il vous recommande au cœur. Êtes-vous malheureux et mal vêtu? Vous vous échappez au meilleur cœur du monde, où ils ne prennent pour vous qu'un intérêt fort tiède. Vous n'avez pas l'attrait qui gagne leur variété, vanité. Et rien ne nous aide tant à être généreux envers les gens, rien ne nous fait tant goûter l'honneur et le plaisir de l'être que de leur voir un air distingué. La dame en question m'examina beaucoup, et aurait même attendu pour me voir que j'eusse retourné la tête, si l'on n'était pas venu l'avertir que la prieure l'attendait à son parloir. Au bruit qu'elle fit en se retirant, je revins à moi et, comme j'entendais marcher, je voulus voir qui c'était. Elle s'y attendait et nos yeux se rencontrèrent. Je rougis en la voyant, d'avoir été surprise dans mes lamentations, et malgré la petite confusion que j'en avais, je remarquai pourtant qu'elle était contente de la physionomie que je lui montrais et que mon affliction la touchait. Tout cela était dans ses regards, ce qui fit que les miens, s'ils lui dirent ce que je sentais, durent lui paraître aussi reconnaissants que timides, car les âmes se répondent. C'était en marchant qu'elle me regardait. Je baissai insensiblement les yeux, et elle sortit. Je restai bien encore un demi-quart d'heure dans l'église, tant à essuyer mes larmes qu'à rêver à ce que je ferais le lendemain, si les soins de mon religieux ne réussissaient pas. Que j'envie le sort de ces saintes filles qui sont dans le couvent, me dis-je, qu'elles sont heureuses. Cette pensée m'occupait quand une tourière me vint dire honnêtement, « Mademoiselle, on va fermer l'église. Tout à l'heure je vais sortir, madame, lui répondis-je, n'osant la regarder que de côté, de peur qu'elle ne s'aperçût que j'avais pleuré. Mais j'oubliais de prendre garde au ton dont je lui répondais, et ce ton me trahit. Elle le sentit si plaintif et si triste, me vit d'ailleurs si jeune, si joliment accommodé, si joli moi-même, à ce qu'elle me raconta ensuite, qu'elle ne put s'empêcher de me dire, « Hélas, ma chère demoiselle, mais qu'avez-vous donc ? Mon bon Dieu, quelle pitié auriez-vous du chagrin ? C'est bien dommage. Peut-être venez-vous parler à quelqu'une de nos dames. À laquelle est-ce, mademoiselle ?» Je ne répartis rien à ce discours, mais mes yeux recommencèrent à se mouiller. Nous autres filles ou nous autres femmes, Nous pleurons volontiers dès qu'on nous dit « Vous venez de pleurer ». C'est une enfance et comme une mini-hardise que nous avons et dont nous ne pouvons presque pas nous en défendre. Et même, mademoiselle, dites-moi ce que c'est, dites, ajouta la tourière en insistant. Irai-je avertir qu'une de nos religieuses? Oh, je réfléchissais à ce qu'elle me répétait là-dessus. C'est peut-être Dieu qui permet qu'elle me fasse songer à cela, me dis-je tout attendri, de la douceur avec laquelle elle me pressait. Et tout de suite. Oui, madame, lui répondis-je. Je souhaiterais bien parler à madame la prieure, si elle en a le temps. Eh bien, ma belle demoiselle, venez, reprit-elle. Suivez-moi, je vais vous mener à son parloir. Elle s'y rendra un moment après. Venez, allons. Je la suivis donc, nous montâmes un petit escalier. Elle ouvrit une porte et le premier objet qui me frappe, c'est cette dame dont je vous ai parlé, que je n'avais vue que lorsqu'elle sortait de l'église et qui, en sortant, m'avait regardé d'une manière si obligeante. Elle me parut encore charmée de me revoir et se leva d'un air caressant pour me faire place. Elle était avec la prieure du couvent et je vous ai instruite de ce qui était cause de sa visite. « Madame, dit la tourière à la religieuse, j'allais vous avertir, c'est mademoiselle qui vous demande. » Cette prieure était une petite personne courte, ronde et blanche, à double menton, et qui avait le teint frais et reposé. Il n'y a point de ces mines-là dans le monde. C'est un embonpoint tout différent de celui des autres, un embonpoint qui s'est formé plus à l'aise et plus méthodiquement, c'est-à-dire où il entre plus d'art, plus de façon, plus d'amour de soi-même que dans le nôtre. D'ordinaire, c'est ou le tempérament, ou la qualité et quantité de nourriture, ou l'inaction et la mollesse qui nous acquièrent le nôtre. Cela est tout simple. Mais pour celui dont je parle, on sent qu'il faut, pour l'avoir acquis, s'en être saintement fait une tâche. Il ne peut être que l'ouvrage d'une délicate, d'une amoureuse et d'une dévote complaisance qu'on a pour le bien et pour l'aise de son corps. Il est non seulement un témoignage qu'on aime la vie et la vie saine, mais qu'on l'aime douce, oisive et friande, et qu'en jouissant du plaisir de se porter bien, on s'accorde encore autant de douceur et de privilèges que si on était toujours convalescente. Aussi, cet embonpoint religieux n'a-t-il pas la forme d'une autre qui a l'air plus profane? Aussi grossit-il moins un visage qui ne le rend grave et décent, et aussi donne-t-il à la physionomie, non pas un air joyeux, mais tranquille et content. À voir ces bonnes filles, au reste, vous leur trouvez un extérieur affable et pourtant un intérieur indifférent. Ce n'est que leur mine et non pas leur âme qui s'attendrit pour vous. Ce sont de belles images qui paraissent sensibles et qui donc des superficies de sentiment et de bonté. Mais laissons cela. Je ne parle ici que des apparences et ne décide point du reste. Revenons à la prieure. J'en ferai peut-être le portrait quelque part. « Mademoiselle, je suis votre servante, me dit-elle, en se baissant pour me saluer. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler ?»« C'est moi qui en ai tout l'honneur, répondis-je encore plus honteuse que modeste. Et quand je vous dirai qui je suis, je n'en serai pas plus connu de vous, madame. »« Ah, c'est, si je me trompe, mademoiselle, que j'ai vu dans l'église où je suis entrée en instant, » dit alors la dame en question. Avec un sourire tendre. J'ai cru même l'avoir pleuré, et cela m'a fait de la peine. Je vous rends mille grâces de votre bonté, madame, repris-je d'une voix faible et timide, et puis je me tus. Je le savais comment entrer en matière. L'accueil de la prieure était avenant qu'il était, mais m'avait découragé. Je n'espérais plus rien d'elle. Sans que je puisse dire pourquoi. C'était ainsi que son abord m'avait frappé, et cela revint à ces superficies dont je parlais et que je ne démêlais pas alors. Elle va me plaindre et on ne me secourra pas, me disais-je. Il n'y a rien à faire. Cependant, ces dames qui s'étaient levées restaient debout, et j'en rougissais parce que mon ami les trompait et que j'étais bien au-dessous de tant de façons. Souhaitez-vous que nous soyons seuls? Me dit la prieure. Oh, comme il vous plaira, madame, répondis-je. Mais je serais fâché d'être cause que madame s'en alla et de vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai. Ce que je disais dans l'intention d'échapper à l'embarras où je m'étais mise et de ne plus revenir. Non, non, mademoiselle, non, me dit la dame en me prenant par la main pour me faire avancer. Vous resterez, s'il vous plaît. Ma visite est finie et je partais. Ainsi, je vais vous laisser libre. Vous avez du chagrin, je m'en suis aperçu. Vous méritez qu'on s'y intéresse, et si vous en retourniez, je ne me le pardonnerai pas. Oui, madame, lui dis-je, pénétré de ce discours et tout en pleurs. Il est vrai que j'ai du chagrin, j'en ai beaucoup. Il n'y a personne qui est autant sujet d'en avoir que moi. Personne de si à plaindre ni de si digne de compassion que je le suis. Et vous me témoignez un cœur si généreux que je ne ferai point de difficulté de parler devant vous, madame. Il ne faut pas vous retirer, vous ne me gênerez point. Au contraire, c'est un bonheur pour moi que vous soyez ici. Vous m'aiderez à obtenir de madame la grâce que je viens lui demander à genoux. Je m'y jetai en effet, et qu'est de vouloir bien me recevoir chez elle. Eh, ma belle enfant, que vous me touchez, me répondit la prieure en me tendant les bras de l'endroit où elle était, pendant que la dame me relevait affectueusement. Que je me félicite du choix que vous avez fait de la maison. En vérité, quand je vous ai vu, j'ai eu comme un pressentiment de ce qui vous amène. Votre modestie m'a frappé. Ne serait-ce pas une prédestinée qui me vient? Ai-je pensé en moi-même. Car il est certain que votre vocation est écrite sur votre visage. N'est-il pas vrai, madame? Ne trouvez-vous pas, comme moi, ce que je vous dis là? Qu'elle est belle, qu'elle a l'air sage. Ah, ma fille, mais que je suis ravi que vous me donniez de joie. Venez, mon ange, venez. Je gagerai qu'elle est fille unique et qu'on la veut mariée malgré elle. Mais dites-moi, mon cœur, est-ce tout à l'heure que vous voulez entrer? Il faudra pourtant informer vos parents, n'est-ce pas? Chez qui enverrai-je? Hélas, ma mère, répondis-je, je ne puis vous indiquer personne. Ma confusion et mes sanglots ne m'arrêtèrent là. Eh bien, me dit-elle, de quoi s'agit-il? Non, personne, continuai-je. Rien de ce que vous croyez, ma mère. Je n'ai pas la consolation d'avoir des parents, du moins ce que j'ai. Je ne les ai jamais connus. Jésus, mademoiselle, reprit-elle avec un refroidissement imperceptible et grave. Voilà qui est bien fâcheux. Point de parents. Et comment cela se peut-il? Qu'est-ce donc qui a soin de vous? Car apparemment, que vous n'avez point de bien non plus. Mais que sont devenus votre père et votre mère? Je n'avais que 2 ans, lui dis-je, quand ils ont été assassinés par des voleurs qui arrêtèrent un carrosse de voiture où ils étaient avec moi. Leurs domestiques qui périrent aussi, et il n'y eut que moi qui en laissa la vie. Et je fus porté chez un curé de village qui ne vit plus et dont la sœur, qui était une sainte personne, m'a élevé avec une bonté infinie, mais malheureusement elle est morte ces jours passés à Paris, où elle était venue, tant pour la succession d'un parent qu'elle n'a pas recueilli à cause des dettes du défunt, que pour voir s'il y aurait moyen de me mettre dans quelque état qui me convainc. J'ai tout perdu par sa mort, il n'y avait qu'elle qui m'aima dans le monde. Je n'ai plus de tendresse à espérer de personne. Il ne me reste plus que la charité des autres. Aussi est-ce qu'elle est son bon cœur que je regrette, et non pas les secours que j'en recevais. Je rachèterai sa vie de la mienne. Elle est morte dans une auberge où nous étions logés. J'y suis resté seul et l'on m'y a pris une partie du peu d'argent qu'elle me laissait. Un religieux, son confesseur, m'a tiré de là et m'a remise il y a quelques jours entre les mains d'un homme que je ne veux pas nommer, qu'il croyait homme de bien et charitable et qui nous a trompés tous deux. Il n'était rien de tout cela. Il a pourtant commencé d'abord par me mettre chez Madame Dutour, une marchande lingère, mais à peine y ai-je été qu'il a découvert ses mauvais desseins par de l'argent qu'il m'a forcé de prendre et par des présents que je me suis bien douté qui n'étaient pas honnêtes, non plus que certaines manières qu'il avait et qui ne signifiaient rien de bon, puisqu'à la fin il n'a pas eu honte à son âge de me déclarer en me prenant par les mains qu'il était mon amant, qu'il entendait que je fusse sa maîtresse, et qu'il avait résolu de me mettre dans une maison d'un quartier éloigné d'où il serait plus libre d'être amoureux de moi sans qu'on le sût, et où il me promettait des rentes avec toutes sortes de maîtres et de magnificence, à quoi j'ai répondu qu'il me faisait horreur d'être si hypocrite et si fourbe. « Eh, monsieur, lui ai-je dit, est-ce que vous n'avez pas de religion ?» Quelle abominable pensée! Mais j'ai eu beau dire, ce méchant homme, au lieu de se repentir et de revenir à lui, s'est emporté contre moi, m'a traité d'ingrate, de petite créature qu'il punissait si je parlais, et m'a reproché son argent, du linge qu'il m'avait acheté, et cette robe que je porte et que je mettrai ce soir dans le paquet, que j'ai déjà fait du reste, pour lui renvoyer le tout, dès que je serai rentré chez Madame Dufour, qui de son côté m'a donné mon congé pour demain matin, parce qu'elle n'est payée que pour aujourd'hui, de sorte que je ne sais plus de quel côté me tourner, si le père Saint-Vincent, de chez qui je viens en ce moment, pour lui compter tout, et qui m'avait bonnement mené à cet horrible homme, ne trouve pas demain à me placer en quelque endroit, comme il m'a promis d'y tâcher. Et au sortir de chez lui, j'ai passé par ici, et je suis entré dans votre église, à cause que je pleurais le long du chemin, et qu'on me regardait. Et puis Dieu m'a inspiré la pensée de me jeter à vos pieds, ma mère, et d'implorer votre aide.